D'accord. Et je suis vraiment reconnaissant d'être parmi vous ce soir. Alex est un ami pour qui j'ai beaucoup de respect, puis bien sûr d'amitié, ainsi que pour sa famille. Alors pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là et j'espère que vous prenez bien soin de lui en tant que pasteur, parce que moi qui suis pasteur ailleurs, je sais combien parfois c'est pas évident de vivre ce travail, ce ministère, cet appel. Et je voulais juste lancer un petit encouragement, vous ne le dites pas, enfin quoi que c'est enregistré, oui, mais voilà, vous ne le dites pas que j'ai dit ça, mais j'espère vraiment qu'il y a de la part de l'Assemblée un vrai amour, un vrai soutien pour lui et sa famille, pour pour lui et puis pour le travail que ça représente. Voilà. Alors en réfléchissant avec lui sur ce qui pouvait être un message ce soir, j'ai pensé au psaume 1. Et le psaume 1 est vraiment un psaume fondationnel à l'ensemble de l'expérience de l'adoration qui nous est proposée dans les psaumes. Et c'est un psaume qui est peut-être le plus connu avec le psaume 23, probablement qu'entre les deux, on ne sait pas lequel on veut mémoriser ou on veut garder dans son cœur. Et c'est un psaume qui est plein de contrastes. Et vous savez que dans l'Écriture, il n'y a qu'un contraste fondamental qui concerne les êtres humains. Enfin, je suppose que vous serez d'accord avec cela. C'est que les êtres humains sont soit fils d'Adam, soit ils sont fils du deuxième Adam, fils de Christ. Il n'y a aucune considération de race, de richesse, d'homme-femme dans notre statut vis-à-vis de Dieu. Et ce contraste, il est en quelque sorte exprimé de façon graphique et vivide dans ce psaume 1, pour en quelque sorte caractériser et marquer deux manières d'être et deux manières de vivre. Et je trouve assez extraordinaire, il est utile à le garder dans son cœur. Et je voudrais le lire et en faire un certain nombre de commentaires. J'ai envoyé à Alex le plan, j'ai vu qu'il avait été repris, donc on pourrait un peu suivre. C'est tout simple ce que je vais dire à partir de ce psaume. Et le psaume 1, donc nous lisons la parole de Dieu. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. » Alors nous voyons ici la vie qui est présentée sous l'aspect tout simple, de deux chemins. Bénédiction associée aux justes, malédiction associée aux méchants. Pour le chemin du juste, la Bible doit être centrale, pleinement centrale, le caractère intérieur doit être transformé, un fruit se cueille alors, un fruit de prospérité, d'aisance, de plénitude, communion avec Dieu, et puis pour le méchant, une grande instabilité intérieure, une grande instabilité sociale, un rejet de Dieu comme une ultime réalité de la personne qui s'endurcit contre Dieu. C'est vraiment une introduction un peu à l'ensemble du livre des psaumes. C'est quelque part un programme pour celui ou celle qui se réclame de Dieu et qui veut l'adorer le reste de ses jours. Et l'image, les contrastes sont là, faciles à saisir. Un arbre plein de vie, de sève, de fruits. Puis de l'autre côté, la paille sèche des déserts qui est portée par le vent. Alors regardons d'abord le chemin du bonheur qui nous est proposé. C'est assez extraordinaire d'observer que cela commence par un mot qui finalement est sympa, heureux. C'est chouette comme mot, enfin, vraiment, enfin moi je trouve en tout cas. Et finalement c'est une belle entrée en matière parce que déjà Dieu se présente comme un Dieu bienheureux, 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Quelle image vous avez de Dieu, je ne sais pas, mais l'une des images que j'ai apprises et que j'ai découvertes, c'est que Dieu était heureux. Ça surprend, n'est-ce pas? Enfin, ça peut surprendre en tout cas. C'est-à-dire que si on pouvait mettre un visage sur Dieu, enfin un visage humain, il serait avec une expression de bonheur. Moi, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, il exprime son bonheur dès la création. Dieu crée et il dit, voilà, c'était très bon. Il y a comme une expression de joie sur l'œuvre qui a été créée. Et lorsque Christ, en personne, donne son premier discours, et vous savez combien on attend les hommes politiques pour leur premier discours, on le sait même récemment par l'histoire de notre pays, on veut entendre ce qui est dit lors d'un premier discours. Le premier discours officiel de Jésus commence par ce mot-là, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 5, les béatitudes, heureux. Et d'ailleurs, le sermon sur la montagne se termine par le thème des deux chemins. Comme quoi, le psaume 1 est presque une anticipation du sermon sur la montagne, presque. Il y a dans les psaumes 25 béatitudes, je vous fais grâce des références, hein, mais Bible Online, vous pourrez vérifier. Et on voit que Dieu souhaite le bonheur. L'éternel Dieu, nous dit le psaume 84:11, est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, c'est quoi le bonheur dont il est question? Ben, dans l'hébreu, il y a un terme qui évoque la bénédiction, la charge et l'honneur confié. Et puis il y a un autre terme qui décrit plus un état intérieur, une exubérance personnelle. Et c'est ce terme-là qui est utilisé. En hébreu, c'est un pluriel invariable qui est un peu une sorte de paroxysme. C'est le bonheur des bonheurs. Il y a vraiment l'intention ici de maximiser la notion. Il est super méga bienheureux, évidemment, ce n'est pas le langage qui est approprié, mais celui qui... Je ne voudrais pas qu'on lise comme ouais, « heureux l'homme qui ne marche pas », comme on réciterait une sorte de... C'est vraiment quelque chose qui... Il est mis en avant ce terme, et quand on regarde comment il est utilisé dans l'Ancien Testament, on voit qu'il est caractérisé par 12 choses. Marcher loin du péché, c'est un bonheur. Prendre refuge en Dieu, c'est un bonheur. Être pardonné de ses fautes, c'est un bonheur. Vous avez, je suppose, eu cette expérience de réaliser la conviction de péché de Dieu, et de réaliser aussi qu'il y a une grâce. C'est un vrai bonheur, non? Franchement, c'est un vrai bonheur. Enfin, moi, je viens d'un milieu totalement païen, où on était régulé par le karma et toutes ces choses. Les gens acceptent les pires souffrances pour essayer d'obtenir le pardon. Vous regardez les religions du monde, et les gens sont prêts au pire des sacrifices personnels pour essayer d'obtenir le pardon. Et Dieu dit, mais c'est un bonheur que je vous donne. Être pardonné, un vrai bonheur. Psaume 32, verset 1. Être bon envers les faibles et les pauvres. Psaume 41, 2. Se rapprocher de Dieu grâce à son élection. Être corrigé par Dieu. C'est un bonheur. Si, c'est la Bible qui le dit. Hein. Si. Voilà. Obéir, c'est un bonheur. Avoir de nombreux enfants. Développer la crainte du Seigneur. Écraser les ennemis de Dieu, c'est un bonheur. Bon, ça c'est pour l'Ancien Testament. On va dire, il y a un petit changement peut-être avec le Nouveau Testament. C'est Dieu qui le fera pour cet aspect-là. Acquérir la sagesse divine, c'est un vrai bonheur. Désirer, languir après Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez mémorisé cette liste de 12 points que nous donne le bonheur de vivre, le bonheur dans l'Ancien Testament. Mais une chose que je veux remarquer dans ce psaume, et ça nous ramènera sur le psaume, c'est que ce bonheur-là, et c'est vraiment important de le comprendre, c'est le résultat, une conséquence, un fruit, un dividende, un retour d'investissement. Et ça, c'est une grande leçon du christianisme, je trouve, c'est que si on fait du bonheur l'objet de notre recherche, c'est un peu comme si on essayait d'attraper le plus possible de sable dans une main en la serrant de plus en plus. Vous avez fait ça déjà ça? Prenez du sable et vous essayez de le... Plus vous serrez dans la main, plus le sable s'en va, il n'y a plus rien qui reste. Et plus on fait du bonheur une poursuite, comme un objectif en quelque sorte de vie, plus ce bonheur nous échappe. Et dans le psaume, le bonheur est quelque chose qui se construit et qui est quelque chose que l'on cueille dans un mouvement. D'ailleurs, le mot « heureux » vient d'un verbe qui veut dire « avancer, marcher, droit, redresser ». Et l'idée qu'on en a, c'est que c'est un peu le bonheur d'une promenade. Et si on s'arrête, on le perd. Bien aimé, l'un des plus grands obstacles au bonheur de vivre avec Dieu, c'est de s'arrêter de marcher avec Dieu. Et moi, je vois, je trouve que c'est Dieu. Ça fait quelques 25 ans, je crois, je ne sais plus trop. Je suis né de nouveau en 84, donc voilà. Ça fait quelques années que je marche avec Jésus et je remarque que c'est vraiment un défi de continuer à marcher avec lui. Mais de marcher en gardant ce premier amour, de marcher en s'associant à sa personne de façon continue. Et le plus grand danger d'un chrétien qui vieillit, c'est qu'il perde la notion que c'est en marchant avec Dieu tout au long de ses jours qu'il cueille le bonheur dont il est question. Ici, le bonheur n'est pas vu comme un but, mais d'un résultat que maintenant le psalmiste va évoquer. Et il fait la remarque que ce bonheur à des ennemis. Ça marche de cette manière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Et vous avez remarqué les degrés de progression que l'on a. D'un côté, on a le méchant, pécheur, moqueur. D'un autre, on a marché, s'arrêter, s'asseoir. Ensuite, on a le conseil, le chemin, le banc. Et on a comme une sorte de crescendo qui nous est donné et qui va asphyxier le bonheur de celui qui est né de nouveau et qui cherche à marcher avec lui. Le terme pécheur, le terme méchant, c'est quelqu'un qui s'oppose à ce qui est bon, commet des actes injustes. Le mot indique la culpabilité intérieure, la disposition personnelle au mal. Le pécheur, c'est celui qui, pour un mot plus imagé, de quelqu'un qui a loupé la cible que Dieu nous a donnée. Et le moqueur, c'est celui qui rigole du péché, du jugement, qui est fier et hautain et qui résiste à toute exhortation, on ne peut rien lui dire, qui est la correction. Alors, si moi j'avais écrit le psaume 1, j'aurais renversé l'ordre. C'est-à-dire que pour moi, le méchant, le pécheur et le moqueur, j'aurais dit le moqueur, c'est celui qui est le moins grave, on va dire, hein. Puis le méchant, c'est celui qui est le plus grave. Vous voyez ce que je veux dire par là? On se dit que le moqueur, c'est finalement, c'est pas très grave. On se moque souvent quand on est en classe. On se moque souvent quand on est jeune, n'est-ce pas? Ça fait partie d'une caractérisation de l'être humain. Mais dans l'écriture, ici, on voit qu'en fait, il y a un crescendo qui fait que finalement, au départ, comme tous les hommes, on est méchant, on est porté au mal. On le réalise quand on a des enfants et que ça, leur égoïsme se manifeste très vite. Et puis petit à petit, on finalise nos positions et on devient ancré dans une attitude résolument moqueuse à l'égard de Dieu. Lisez les livres de Michel Onfray, l'athée le plus célèbre de France. Et vous voyez à quel point il y a de l'arrogance mêlée à de l'ironie et de la moquerie. Il est ancré dans sa conviction. Et deuxièmement, la progression aussi qui est facile à percevoir, marcher, s'arrêter, s'asseoir. On est comme en marche vers cette nouvelle Jérusalem que Dieu nous prépare, la place que Jésus nous prépare, et puis on a plein de sirènes à droite et à gauche qui nous disent « Mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de marcher avec Christ ? Franchement. Arrête un peu, cool, relax. Te donne pas tant de peine. Mourir à soi-même. Oui, le dimanche, un jour, lors d'un camp de jeûne, et puis ensuite, vis ta vie. Hein ?» Et on a cette sorte d'élan fréquent qui nous ramène à nous arrêter du côté de ceux qui, finalement, méprisent la vie avec le Seigneur. Donc ce conseil devient chemin, qui devient banc, et c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Les choses du monde, elles nous attirent. Enfin, peut-être vous êtes dans cette église un peu exempt des tentations des autres, mais je trouve que les choses du monde nous attirent vraiment, hein. C'est fort, c'est puissant. J'ai eu la chance de passer une année en Californie. Pour certains, ce ne serait pas de la chance, mais voilà. Et on était près de Hollywood. Alors ça, c'est le rêve un peu, hein, le lieu le plus influent de toute la planète, culturellement en tout cas. Et des amis qui travaillaient dans le monde de Hollywood nous ont proposé de passer la soirée avec nos enfants, l'après-midi dans les lieux mythiques, là où on met, il y a les empreintes de John Wayne, hein, vous savez, c'est... Alors nous, on était là, oh là, c'est extraordinaire tout ça. Et c'était beau de voir toute cette influence d'hommes, de célébrités, toutes ces paillettes un peu qui étaient là. Et ses amis qui étaient chrétiens nous ont dit, mais ce soir, là on va déposer les enfants à la maison et vous regardez un film et nous on va vous en emmener sur les mêmes lieux la nuit. Hollywood by night, c'est vraiment pas l'endroit où vous voulez aller, c'est dangereux. Et puis vous trouvez beaucoup de prostituées, beaucoup de travestis, beaucoup de gens dans des situations complètement déjantées. Et je pouvais pas, enfin, le contraste entre l'industrie du film, si polissée, si jolie, toute l'influence culturelle, etc. Et puis la vie de ceux qui étaient autour de cette industrie, qui était complètement brisé et souvent bien misérable. Et je me dis, ça c'est l'attraction dont le psaume parle. Les paillettes qui souvent font qu'on se dit, ah, vivre en Christ, on perd quand même beaucoup. Et Dieu nous dit, non. Il y a un vrai bonheur qui se construit quand on fait attention aux influences et aux relations que l'on a. Il y a un vrai bonheur qui se construit et qui se cueille dans le temps, et le contraste maintenant se diversifie. C'est pas simplement les influences que l'on rejette, mais les influences que l'on va mémoriser, que l'on va intégrer en soi avec le verset 2 du psaume 1, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit, littéralement, plutôt dont la parole de l'Éternel est sa joie. Et c'est un contraste qui est marqué entre, d'un côté, la vie dilettante, hein, j'accepte les conseils qui me freinent dans ma marche avec Dieu. Et d'un autre, cette puissance de la parole de Dieu qui devrait être au centre de notre joie. Alors je sais que c'est très culpabilisant de parler à des chrétiens en disant « Est-ce que la Bible est au centre de votre joie ?» C'est pas parce que, franchement, c'est pas toujours le cas. Hein. Enfin, je sais pas, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Moi, l'homme le plus saint que j'ai jamais rencontré, c'était un charpentier. Il s'occupait, sauf qu'il n'avait pas beaucoup de travail en tant que charpentier, c'était aux États-Unis encore, mais il faisait de l'installation d'air conditionné. Et comme il était donc dans la même ville à Los Angeles dont j'ai parlé, je reste dans ce territoire-là pour mes illustrations aujourd'hui, mais et ce qu'il faisait, il était diacre dans une église, et ce qu'il faisait, comme il y avait beaucoup d'embouteillages, c'est que chaque matin, il recopiait 5 versets et il les mettait au-dessus de son rétroviseur, c'est ça ? Et quand il y avait beaucoup d'embouteillages, il pouvait les lire souvent et il mémorisait comme ça. Ben, il avait mémorisé tout Romain, puis un évangile, et puis plusieurs épîtres. Et j'ai jamais vu ça chez quelqu'un. Mais cet homme, il respirait quelque chose de bizarre. Il était toujours dans une satisfaction profonde, avec un sens de l'humour pétillant. Et on voyait quelqu'un qui était bien, quoi. Il était bien. Il bossait beaucoup, il aimait sa femme, vivait bien avec ses enfants, il était sage dans ses conseils. J'étais impressionné de voir l'impact de la parole de Dieu. En fait, l'idée de ce psaume, c'est de dire, voilà, on va choisir de valoriser ce que l'Écriture nous dit, de façon assez constante. On va choisir de trouver que c'est bien de la garder en soi. Alors, quelques idées pour cela. Nous, dans notre église, on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle les groupes de croissance. C'est deux ou trois hommes, ou bien deux ou trois femmes, qui décident de lire en une semaine entre 20 et 30 chapitres, les mêmes. Par exemple, on va lire Éphésiens 4 fois, par exemple. Chacun dans son coin, hein, pas ensemble. Et puis on se retrouve dans la semaine et on parle de ce que l'on a lu pour en parler, mais pas du style, c'était très intéressant. Mais pour en parler de façon concrète, Dieu a mis le doigt sur ce péché dans ma vie, est-ce que tu peux prier pour moi? Ou bien, j'ai saisi cette promesse et je veux vivre de cette promesse, parce que, par exemple, quand Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées, c'est facile, sauf quand on est inquiet. Et donc, voilà la pertinence un peu de se dire, voilà, je sens qu'il y a en moi une angoisse fréquente sur mon chômage, sur la maladie de mes enfants, ou je sais quoi, j'ai besoin que cette promesse, elle remplisse ma tête. Et on prie les uns pour les autres tout au long de la semaine. Et ça, j'ai trouvé un moyen pertinent pour laisser le bonheur de l'Écriture, sa valeur et son impact s'installer en nous. Une autre idée, c'est de souligner l'Écriture par thème théologique, ou en fonction de codes que l'on a choisi, ou bien de mémoriser un verset par jour, ou bien un verset par semaine même. Et je me rends compte que certaines semaines, pour moi, c'est plus facile que pour d'autres, parce que comme je suis très occupé comme tout le monde, c'est pas facile en fait. Je m'adresse cette exhortation de réaliser que j'ai besoin de cet impact. Et en tout cas, regardez les conséquences de cela. Après, dans le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il y a comme une vitalité, comme une productivité, comme un impact de l'Écriture dans la vie. Et quand je pense à des fruits, alors je ne veux pas porter trop loin, enfin c'est assez évident hein, l'illustration, vous mettez un arbre dans un désert, il flétrit, hein, vous mettez un arbre près d'un cours d'eau, ben... Il prospère. Mais je me dis, c'est intéressant dans l'image du fruit, c'est que le fruit n'est utile qu'à celui qui le cueille. Et finalement, l'impact que Dieu veut avoir en nous au travers de son Écriture, ça doit être un impact qui est pour les autres. Ce n'est pas vraiment pour soi. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont pour soi dans la vie avec Dieu. Mais je remarque qu'il y a une idée dans ce psaume, c'est que okay, je vais voir que le bonheur, c'est quelque chose que je vais construire dans ma marche. C'est un bonheur qui se construit alors que j'évite à certaines choses de me ralentir et de m'arrêter, de voler mon élan de trouver mon plaisir en Dieu. C'est quelque chose que je construis en méditant l'Écriture et ça va produire une abondance pour les autres, pas nécessairement pour soi. Mort à soi-même n'est pas toujours très agréable et paisible et souhaitable à soi-même, à son bonheur émotionnel. Mais alors que l'on vit en laissant l'impact de l'Écriture avoir tout son fruit, c'est d'autres qui vont dire « Ah, c'est franchement impressionnant de... » à passer du temps ensemble, parce que l'écriture va avoir son œuvre. Le bonheur, c'est un peu quelque chose que les autres cueillent sur l'homme heureux qui est rempli de la parole de Dieu. Le temps passe et il faut qu'on aborde la deuxième partie de ce psaume. C'est le chemin de la honte. Il n'en est pas ainsi des méchants. Contrasté et rapide. Et la négation qui est utilisée dans l'hébreu ici, absolue, il n'en est pas du tout ainsi des méchants. C'est vraiment peut-être un petit peu caricatural d'ailleurs, hein, le bonheur de ceux qui marchent avec Dieu et le malheur de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. On est un peu dans la caricature, mais on est dans la caricature aujourd'hui, on ne le sera pas dans l'éternité. Le jour où le jugement de Dieu sera passé et que Dieu aura réparti les hommes entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, ce psaume-là ne sera plus du tout une caricature. Aujourd'hui, les lignes de démarcation sont un petit peu plus floues. Néanmoins, le psalmiste dit qu'il y a un chemin de honte, pour celui qui ignore la personne de Dieu, son salut, son œuvre, sa parole. S'il s'agit des méchants, un titre répété à 4 reprises dans ce psaume, verset 1, verset 4, verset 5, verset 6, les gens qui sont détachés de Dieu et dont la vie est donc sans retenue. La honte d'être ballotté. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, moi, je suis un urbain et cette image ne me parle pas nécessairement, mais j'ai appris qu'à l'époque et dans ces contrées, pour séparer le blé de l'écorce qui entoure le blé, il faut rassembler lors des moissons tout ceci sur une sorte de plateforme bien rigide et puis on frappe la récolte pour séparer un petit peu l'écorce de la céréale. Et puis ensuite, il faut jeter en l'air par un jour de vent, pas trop grand vent non plus, mais quand il y a un petit peu de brise, et c'est heureusement le cas plus facilement dans ces contrées, mais bref, on jette en l'air, et puis comme l'écorce est un petit peu plus vide, et ainsi que la paille ou la tige qui s'attachait à la céréale est un petit peu plus légère, pardon, le vent l'emporte un petit peu plus loin, et au fil du temps, on a de plus en plus rassemblé sur cette aire un peu solide, on n'a que des céréales. Et l'image est donnée ici, c'est une personne qui a vraiment aucune stabilité. Aucune stabilité. Dans le sens où le vent l'entraîne, le vent l'emporte, et la moindre influence le fait se détourner. Ceux qui ne prennent pas racine dans la parole, en quelque sorte, sont décrits comme sans stabilité personnelle. Ils vont d'une décision à l'autre, d'une influence à l'autre, ils sont déstabilisés très rapidement. Un peu l'image qui nous est donnée en Éphésiens 4, 11 dans l'Église, où Dieu dit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est un peu l'idée de cette église que vous formez et que nous formons partout dans le monde. C'est que, de par les ministères qui ont lieu, et notamment des ministères de parole, des ministères d'enseignement, on va prendre des réflexes, des positions, des compréhensions qui vont nous enraciner plus profondément dans les voies de Dieu et éviter qu'on soit ainsi ballotté par des influences diverses qui ont toujours menacé à la fois l'Église et les chrétiens. Le chemin de honte de celui qui est ballotté comme ça, sans aucune racine, et puis aussi de celui qui est accusé, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Aujourd'hui, les méchants résistent très bien, prospèrent et vont bien. Et le psalmiste nous invite à dire, mais si vous adorez Dieu, si vous rentrez dans l'ensemble de ces psaumes qui parlent de cette vie avec Dieu, ben oui, on va puiser un grand bonheur en évitant certaines influences, en puisant notre compréhension de la vie et dans la Bible. Et parfois, on ne verra pas vraiment le fruit de tout ceci. Aujourd'hui, on voit des gens pécheurs ou des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu prospérer, être heureux, joyeux, tout ça. Tout en ignorant que le jour vient où un jugement arrive et où Dieu va révéler les cœurs et la réalité de la situation. Et là, il se fera, à ce moment-là, il relèvera la racine, la nature de la vie qui a été menée par chacun dans une relation à Dieu ou pas. On a demandé à Rousseau ce qu'il dirait à Dieu après sa mort. Celui-ci a rétorqué du haut de son cynisme coutumier, « Oh, je me justifierai !» C'est aberrant, qui peut se justifier devant Dieu ? Je me justifierai. Je me souviens d'une amie qui, on va rester dans le même territoire, à Hollywood, enfin non, c'était à San Francisco, en Californie, d'accord. C'est une amie que j'ai rencontrée dans ces temps que nous étions là-bas, et elle était dans un immeuble où vivait le cofondateur des parades gays, d'accord, qui sont devenus maintenant, dans le monde entier, une marque, un symbole du militantisme, cette manière de vivre. Et ce qui était intéressant, c'est que ce jeune homme, un jour, donc on est au tout début des années où les gens faisaient leur coming out, comme on dit aujourd'hui, c'était au tout début des années où SIDA, c'était des années assez tragiques, on ne savait pas quoi faire de cette maladie, quoi faire de cette situation, on ne savait pas même vraiment ce qu'elle était. Et c'était la deuxième parade gay jamais organisée. Et ce cofondateur rentre un soir, totalement ivre de cette parade, et il rentre dans l'ascenseur et il voit cet ami et il se met à pleurer. Et il dit, c'est pas vrai que je suis fier. C'est pas vrai. Et il se met à pleurer, il avait le sida, il savait qu'il allait mourir, il perdait de plus en plus de force, il n'y avait aucune trithérapie à ce moment-là, enfin c'était vraiment là, vraiment glauque comme avenir. Et il disait, si seulement je pouvais revenir en arrière, rester à la ferme de mes parents, et j'aurais vécu une autre type de vie. Et je me dis, je ne peux pas parler en cela d'un jugement, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux souligner par contre, c'est le contraste qu'il y a parfois entre l'apparence et la réalité. Entre l'apparence et la réalité, et finalement, l'ultime destinée de ceux qui, de ceux qui marchent sans aucune considération de la personne de Dieu et de son salut. Et enfin, la honte d'être isolé, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Troisième conséquence que l'on trouve ici, celle de la séparation. Je me dis que le péché, son plus grande conséquence, c'est l'isolement. Le pécheur, il est isolé de Dieu, il est isolé des autres saints. Et le psaume se termine avec ce constat, l'arrivée des chemins, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Et le contraste est entre l'approbation, l'Éternel connaît la voie des justes. J'aime bien cette perspective que Dieu connaît la voie des justes. Alors quand il est question ici de juste, il n'est pas question de gens qui sont bons par eux-mêmes, hein, on est d'accord ? La Bible dit qu'on est tous pécheurs et que on est tous fils d'Adam naturellement et donc celui qui est juste, c'est celui qui comprend que sa seule justice ne peut venir que de Jésus-Christ. Parce que lui est notre justice. Lorsque Dieu meurt à la croix, lorsque Dieu le Fils meurt à la croix, Dieu le Père place sur Dieu le Fils l'ensemble de nos fautes pour que si nous nous confions en lui dans la foi et dans la repentance, il puisse prendre l'ensemble de nos fautes et nous donner sa justice. Les justes sont simplement ceux que Christ a justifiés. Mais ce que j'aime bien, c'est cette notion, l'Éternel connaît la voie des justes. Il connaît nos chemins, il connaît nos situations, il connaît, verbe qui a une connotation immense dans l'amplitude de sa connaissance, d'abord parce que Dieu est omniscient et qu'il connaît toutes choses, mais également par la relation personnelle que cela évoque. Un jour, on entendra, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et c'est ce que ce psaume veut nous faire réaliser. Il y a un bonheur qui est à construire, et donc c'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui va vraiment se construire tout au long d'une vie. Laissez rien le voler, ne laissez rien voler ce bonheur. Et par contraste, les méchants auront leur chemin, bien sûr, ils feront leur sauce comme ils veulent, mais en même temps, ça ne s'amène pas très bien, mais Dieu connaît notre chemin, les difficultés que ça implique, les chutes aussi que ça implique, la nécessité de revenir à lui, de marcher de nouveau. Et le contraste, l'arrivée des chemins entre l'approbation d'un Dieu qui dit « Bien, bon et fidèle serviteur !» C'est quelque chose qu'on a besoin de garder en tête. Et ce contraste avec la voie des pécheurs qui mène à la perdition. le temps vient où devant un grand trône blanc, les hommes rendent compte de leurs œuvres. Et ce qui est assez effrayant, c'est qu'il n'y a, y a personne qui en sort indemne. Parce que personne n'est justifié de ses, par ses œuvres. On ne peut être justifié que par la personne de Christ. Alors voilà, ce psaume finit avec une note un petit peu solennelle et un petit peu terrible, mais elle nous encourage à développer un chemin et une marche qui doit être persévérante. Et j'espère que ce message ce soir sera juste un jalon d'encouragement pour dire, moi que Dieu a élu, choisi, conduit à la foi et à une vie pour lui, je désire vraiment marcher selon lui, empêcher les méchants, les pécheurs, les moqueurs de voler ce bonheur et de m'entraîner sur des chemins qui sont stériles. Le danger pour un chrétien authentique n'est pas de perdre le salut, mais de perdre ce qui fait son essence, son premier amour, son utilité, sa vie, sa vivacité, pour que d'autres puissent en profiter. Le gars qui m'a conduit à Christ, j'avais 18 ans, encore une fois, je suis né dans une famille totalement étrangère aux choses de Dieu. Le gars qui m'a conduit à Christ au bout d'un certain temps, assez rapidement après avoir témoigné courageusement, alors que j'étais opposé à tout ça, a tout lâché. Je ne sais pas si dans son cœur il a lâché vraiment le Seigneur, mais il a marié une femme qui ne connaissait pas Dieu et vit en dehors de toute relation avec Dieu, en tout cas que je puisse percevoir, ainsi que sa famille. Il est stérile vis-à-vis de Dieu. Le jour de son jugement appartient à Dieu, ça ne me regarde pas. J'espère, je prie pour lui, que son salut ait été vraiment scellé par le sang de Christ et que c'est simplement un endormissement temporaire. Il a encore quelques années, j'espère, pour revenir à lui. Mais quel gâchis de perdre toutes ces années de productivité pour Christ, de fruits abondants pour Dieu. L'exhortation et l'encouragement que je voudrais laisser, c'est que nous puissions être de ceux qui persévèrent en se relevant chaque fois que nécessaire et que le péché nous a surpris, ou plus que ça, et que nous puissions à construire notre bonheur sur la parole de Dieu, sur la volonté de lui obéir, jusqu'à ce que nous entendions de lui, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On prie. Dieu et Père, nous te rendons grâce de ce que tu aies vu l'humanité que nous formons avec miséricorde et grâce, parce que il n'y a pas grand-chose en nous qui soit agréable et devant toi. Tu nous as aimés au point de nous sauver, et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que la grâce de Dieu nous est touchée. Et Père, je prie que dans cette salle ici, nous soyons tous saisis du désir de construire un bonheur qui t'honore, toi, qui s'inscrive à l'encontre des influences du monde et qui s'inscrive sur ou s'appuie ou se fonde sur l'Écriture. Encourage-nous à cela, Seigneur, et permets-nous de garder les yeux rivés sur toi, même dans les moments qui sont plus particulièrement difficiles, jusqu'à ce que nous entendions de toi l'accueil ultime et final de ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.